Lorsqu'on va sur des quais, c'est de plus en plus difficile d'accès à cause des nouvelles règles de sécurité qui ont été implantées après septembre 2001. Maintenant, on ne peut plus approcher les navires comme on le faisait à mon époque. Là. Je sais pas, moi, si les quais étaient cadenassés, barrés, gardés par des agents de sécurité. Puis si tu vas aux États-Unis, c'est encore pire que ça. Là. C'est des gens armés là qui surveillent les quais. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était le cas après septembre 2001. Il n'y a plus personne là, qui entre et bien souvent même qui sortent des quais parce qu'il y a des terminaux qui sont complètement fermés là, à tout type de visiteurs et même les marins qui naviguent à bord des navires n'ont pas le droit d'aller à terre. Ça, j'ai vu ça en masse. Là. Donc, surtout après 2001, même en Irlande, il y avait un endroit comme ça, à Whitegate, où j'ai même pas été capable de débarquer après mes deux mois de navigation. J'ai été obligé de faire un grand voyage à bord d'un bateau avec le pilote. Là, et puis partir, revenir, passer en avant du quai et m'en aller là, à la station de pilotage pour pouvoir débarquer.
Parce qu'on bloquait complètement l'accès.
On interdisait totalement là, de signer off, là, de quitter le navire. Il n'était pas question d'aller prendre une bière à terre non plus. C'était une raffinerie américaine là, qui tenait ça, puis c'était les règlements des États-Unis qui s'appliquaient là, à l'intérieur là, des limites de cette raffinerie-là. Mais lorsqu'on était jeune, on pouvait aller là, puis même toucher les navires, puis embarquer sur des navires en visite. Et il y a tout le temps des choses, moi, qui m'ont impressionné. C'est des fameuses marques là, qu'il y a sur les coques des navires. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Ceux qui ont vu le post là, sur Facebook, là, ben, on voit ce qu'on appelle les marques de plimsoll. Donc, ce sont des lignes de charge. Avant d'arriver dans ce sujet-là, il y en a plusieurs autres aussi. Les plus faciles à remarquer, là, ce sont le tirant d'eau du navire. Là, la série de chiffres que l'on voit là, des deux côtés du navire à l'avant et aussi bien souvent au centre et aussi de plus en plus aussi à l'arrière, donc toujours à l'arrière.
Donc moi je vois l'image justement, je l'ai devant moi, je vois une image avec une ligne à la verticale et plein de petites lignes aussi à l'horizontale. Donc ça là c'est sur le côté du bateau.
Sur le côté.
Puis tout dépendant justement de la charge du navire, ben
on ne peut pas dépasser ça.
Okay, super.
C'est donc super. Cette ligne là il y a tu vois aussi un cercle là, avec deux lettres.
Hein?
Donc
le ça. Right, left, j'imagine.
Sur ma feuille ici, j'en ai mis un autre qui s'appelle BV. Donc, et LR ou AB ou DN ou. Ce sont la société, les noms de la société de classification du navire. C'est un navire maintenant, là, c'est classifié par des sociétés américaines, britanniques, françaises, ou russe aussi, ou croate, ou d'autres. Là, plusieurs pays en ont. La Chine aussi a de ces genres de sociétés-là. Ce sont des sociétés privées, mais qui classifient le navire, là, qui le mesurent, qui calculent les tonnages et tout ça. Donc, lors de la construction. Ces chiffres-là sont valides là, jusqu'à ce qu'il y ait des travaux de changement là, à l'intérieur du navire, soit suite à une vente, suite à un changement de pavillon, parce qu'un navire, ça se vend, puis ça change de drapeau aussi. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais ces lettres-là là, que indiquent là, le nom de la société de classification et la ligne là, qu'on voit là-dessus, c'est la ligne de charge qu'on appelle la deck line. Là. Oui. On a des problèmes de port. Acheter de l'huile un petit peu.
On entend ça coince.
Et cette fameuse... moi, je trouvais que ça ressemblait, quand j'étais jeune, à une croix gammée. Mais disons que c'est pas du tout le cas. Là. Mais il y a des lignes là-dedans là, où on peut charger un navire selon le type d'eau qu'on est. À gauche, là, c'est l'eau douce. Donc, c'est ce qu'on appelle fresh water ou tropical fresh.
Donc, on peut charger un peu plus lorsque c'est en eau douce.
Oui. Okay. Et à droite, là, c'est l'eau salée. Donc, plus on descend vers le bas, moins on charge le navire.
OK, je vois le Winter North Atlantic. Là, ça, c'est nous autres, là, dans le coin.
C'est
pas loin. Fait que...
Oui, et si tu traverses l'océan Atlantique, parce que c'est on parle de l'océan Atlantique, en hiver, on charge un navire beaucoup moins que si on s'en va, là, qu'on part d'Halifax, si on s'en va dans le sud. Donc, si tu es en hiver, tu vas charger à W, à Winter. Okay. Et si tu es l'été, ben, tu vas charger encore plus.
Summer.
Et si tu te déplaces, là, vers l'Amérique centrale, là, tu vas charger
les eaux tropicales.
Okay. Donc, tu vois que ça, c'est une question de sécurité aussi. Donc, lorsque on parle de l'hiver là en Atlantique Nord, Winter North Atlantic, je peux te dire que là-bas, là, c'est pour les adultes seulement. Généralement, quand tu t'attrapes des tempêtes dans le mois de décembre, dans l'Atlantique Nord, là, t'arrives à l'autre bout assez amoché.
Je te pose la question parce que je trouvais ça quand même pas fou, mon histoire de right-left, de gauche-droite. Ben
oui.
Est-ce qu'il y a, au bout du bateau, au bout du navire, quelque chose qui dit, ben là, t'es trop chargé à gauche, t'es trop chargé à droite.
Ouais,
y a-tu niveau de tout ça,
ça
une
c'est
ligne?
Ça, là, tu parles de charger là,
de façon équilibrée. Là.
Oui, donc c'est ce qu'on appelle, ce qu'on voit, nous, là, à bord d'un navire, ce sont des lumières, ce qu'on appelle un clinomètre.
Okay.
Donc, et sur les pétroliers, là, c'est très utile. Là, si tu charges plus à droite, tu vas avoir une lumière verte s'allumer. Si tu la charges beaucoup plus à droite, tu vas avoir deux ou trois lumières vertes allumées. Là, trois, là, c'est le temps que tu te ramènes. Là. Donc, tu vas charger un réservoir plus à gauche qu'à droite. Des fois, ça entre aussi. Mm-hmm. Ça dépend où est je parle d'un pétrolier, là, où est l'entrée là, de pétrole dans le réservoir. Mais aussi maintenant, avec les nouveaux ordinateurs qu'on a sur les navires, moi, à bord de l'Audacité et de d'autres navires que j'ai fait là, pour la dernière firme que j'étais, tout était là monitoré sur ordinateur. Et on avait des alarmes là, si jamais on était un petit peu plus chargé à gauche qu'à droite. Et il y a aussi des sirènes là aussi qui se mettent à sonner sur le pont pour nous avertir là que là on a des problèmes avec notre stabilité. Un navire, ça doit rester stable.
Ouais, et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit équilibré. Oui. Là.
Et pour revenir à ces fameuses lignes de charge-là, c'est un règlement aussi qui est émis là, par l'autorité sur laquelle le navire est enregistré. Si c'est un navire canadien, les officiers, là, les inspecteurs de Transport Canada viennent à bord du navire lors des inspections et demandent à voir là, ces chiffres-là, demandent aussi à voir les calculs de stabilité que les officiers et le capitaine font à bord du navire. C'est quelque chose de très sérieux. Très, très sérieux. Les lignes de charge, là, lorsqu'on passe un brevet de premier maître, je peux te dire qu'il faut que tu apprennes le règlement qui contient plusieurs pages, presque sur le bout de tes doigts, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont posées là-dessus. Donc, lorsqu'on voit un chargement de navire aussi, il y a des exceptions aussi, là. Pour un navire passager, là, le tirant d'eau là, ne change presque pas. Donc, tu vas voir que les lignes vont être beaucoup plus resserrées que sur un pétrolier, comme tu vois là. Donc, tu vas en avoir moins aussi. Là. Un navire de comme le F.A. Gautier, là, je pense pas qu'il aille souvent là dans les eaux tropicales ou qu'il aille souvent dans les en Atlantique Nord. Donc, tu verras probablement
c'est
pas
des grosses.
Oui, de grosses différences de tirant d'eau. Tandis qu'un pétrolier ou un cargo, mais même encore des conteneurs, on voit jamais un navire aussi bas qu'un pétrolier.
Ouais.
Oui, sur un pétrolier, moi j'ai navigué sur des pétroliers, ça ressemblait à des sous-marins par bout là. Parce que dans ce temps-là, on avait le ballast à l'intérieur. Non, on avait le ballast à l'intérieur des réservoirs de pétrole. Donc on vidait le navire au complet. Après ça, on faisait inspecter les réservoirs par des surveyors, là, des inspecteurs qui arrivent avec la flashlight et qui regardent s'il en reste dans le fond. Ils signent un certificat qu'on appelle un certificat à sec ou un dry tank certificate. Donc, après ça, on mettait de l'eau à l'intérieur là, pour pouvoir naviguer. Parce que sur un pétrolier, si tu mets pas de ballast, c'est bien de valeur, mais tu pourras même pas partir du quai parce que ton devant est complètement sorti de l'eau et ton hélice est aux trois quarts sorti de l'eau. Donc, c'est maintenant, aujourd'hui, on a des réservoirs de ballast là, qui sont séparés des tanks de pétrole, des réservoirs de pétrole sur tous les pétroliers qui sont construits. Là, des navires à simple coque, là, il ne doit plus en rester beaucoup qui sont en fonction, à part peut-être... Là, en Méditerranée, en Afrique ou peut-être même en Amérique centrale, on ne voit pas ça du tout. Là. Maintenant, ce sont des navires qui sont où le ballast est complètement là, séparé là, des réservoirs de pétrole. Donc, maintenant, là, la sécurité sur ce genre de navire-là, là, lorsque tu commences à décharger un pétrolier, là, tu ne connectes pas la hausse puis tu pars pas la pompe. Il y a un paquet de mesures de sécurité que tu dois là, enclencher. Il y a des inspecteurs là à bord qui viennent là, de la raffinerie et qui font là, le tour de la checklist que l'on doit remplir et cocher et signer en bas. Et puis, s'il arrive un problème et que le travail n'avait pas été fait là, ou les inspections ont été mal faites au début, ben tu vas voir qu'on peut se faire cogner sur les doigts. Ah, ça peut nous coûter notre emploi, puis aussi ça peut même nous jeter en prison là, si jamais les certificats des des boyaux de déchargement pour parler français, monsieur Michaud.
Oui,
donc sont passés date là et qu'on s'est pas occupé de les faire renouveler, puis que lorsqu'on décharge, la pression fend un boyau là, on est dans la merde là, je peux te dire ça solide.
Michel était surpris parce que j'avais pas encore posé de question, ouais. J'en ai une.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses du problème qui est causé par le transport des eaux de ballast qui amènent des espèces, par exemple, dans les eaux?
Ben, ça, c'est un problème. Effectivement, les fameuses moules zébrées, là. Parce que maintenant aussi, là, il y a eu beaucoup d'améliorations là-dessus. Et ça, c'est
vas-y, parce que il y a des poissons chinois, oui, qui se ramassent dans le fleuve.
Ben oui, c'est ça. Ben, effectivement, là, puis des carpes aux États-Unis,
oui,
et tout ça.
Puis la moule zébrée.
Oui, oui, oui. Et la fameuse moule zébrée qui est rendue partout, même dans les lacs ici, où il n'y a même pas de navigation, là.
Effectivement.
De navigation commerciale, là, comme le lac Témiscouata.
Mais tu dis, il y a des améliorations.
Oui, des améliorations. Maintenant, disons qu'on décharge un navire, dans la mer Noire. Bon, ben on a fini de décharger, on va prendre du ballast, on va prendre de l'eau de ballast qui vient de la mer Noire. Puis lorsqu'on s'en vient, là, on passe en face de Rimouski, on s'en va sur les grands lacs, on a toujours cette eau-là qui provient de la mer Noire. Donc, ce qu'on faisait auparavant, c'est qu'on attendait d'être rendu au quai, au nouveau quai de chargement, et puis là, on pompait le ballast à l'eau. Et puis c'est là que les fameuses moules là, apparaissaient là, des années après là. Donc ces organismes là ils s'adaptent très très bien dans nos eaux. Et puis des sortes de poissons là, des œufs de poissons qui devaient se déplacer comme ça. Maintenant ce qui arrive là, c'est que les navires vont changer leur eau de ballast durant le voyage
dans les eaux internationales.
Dans les eaux, même dans les eaux canadiennes là.
Ah OK.
Oui, lorsque ça
au
large de Terre-Neuve, des choses comme ça. Donc tu vois le premier maître va arriver puis va partir, là, il va vider un réservoir, il va en remplir un autre, il va en vider un autre, un autre, un autre, jusqu'à ce qu'on ait là, des eaux là, moins à problème. Donc, c'est un règlement. Maintenant, les navires doivent faire ça.
Ah, c'est bien, merci. Ouais.
C'est surtout
très intéressant.
C'est comme ça que ça fonctionne.
Bon, au moins, on essaye de combattre le problème.
Oui, effectivement, mais c'est un problème qui est dur à combattre parce que les organismes, là, eux, vivant, là, ouais, s'adaptent très, très facilement. Il y a toutes sortes de poissons bizarres maintenant dans les eaux américaines, là. Ah oui, oui, des espèces.
Je suis en train de passer aux Simpsons, moi, là, le poisson qui a trois yeux.
Ah, OK.
Ah, mon Dieu. Bon, ça, je sais pas si on a...
Ouais.
J'espère qu'on l'aura pas.
Mais ça, c'est des règlements maintenant qui ont été édités par plusieurs pays, puis il faut absolument changer les eaux de ballast, comme ça. Puis il y a aussi des produits que l'on peut ajouter au ballast. Aussi, là, nous, ce qu'on avait, là, on allait souvent changer dans la rivière Humber. C'est une rivière qui est très boueuse, là, en Angleterre. Ce qui faisait qu'il se ramassait beaucoup de boue, finalement. Donc, on avait un émulsifiant qu'on mettait avec le ballast, là, dans une bouteille. Et puis là, oui, je peux te dire que ça travaillait fort, parce que quand ça sortait, là, on voyait ça sortait noir complètement, là. Donc, ça nettoyait, là, et ça tuait aussi probablement, là, tous les organismes, là, oui, qui devaient, là, être indésirables dans certaines eaux. Aussi, donc, ces règlements-là sur les lignes de charge, ben, si vous voyez un navire comme ça, avec des marques comme ça sur le côté, ben, vous allez comprendre que c'est l'endroit où une barre correspond à un endroit où on doit charger le navire selon certaines périodes de l'année, ou selon aussi le type d'eau, là, si c'est de l'eau douce ou de l'eau salée. Parce que les grands lacs aussi, là, il y a beaucoup de navigation sur les grands lacs aussi. Il y a des lacs aussi, des endroits d'eau douce aussi partout à travers le monde. Donc, aussi quelques nouvelles intéressantes au chantier des Méchins. Le traversier Madeleine II, qui est en arrêt technique d'ailleurs, ce navire-là qui a été acheté en Europe et qui s'appelait auparavant le Villa des Terrors. Donc, maintenant, ça s'appelle le Madeleine II. Il fait une excellente job, là, d'ailleurs, pour la CTMA, la coopérative de transport maritime et aérien des îles de la Madeleine.
Oui, c'est ça.
Oui, et il est au chantier maintenant des Méchins, le chantier du groupe Océan, Véro Océan, et il est remplacé par le bon vieux CTMA Voyageur pour une période de 10 jours. Il est arrivé le 23 mai, et les travaux que l'on va effectuer, ce que j'ai su, c'est des travaux au propulseur d'étrave, là, c'est l'hélice que l'on a en avant des navires maintenant, là, pour aider à la manœuvre. Et l'hélice, d'ailleurs, là, on a eu des problèmes avec l'un des deux propulseurs. Il y en a un qui fonctionnait plus, donc il fonctionnait probablement seulement sur un sens. Et là, ben, on va en profiter pour regarder l'autre aussi. Et puis, ce sont des travaux là intéressants.